Charles Ferdinand Ramu, Terre du ciel, 7. Il s'appelait Augustin. Elle s'appelait Augustine. Eux aussi s'étaient retrouvés, ayant été séparés l'un de l'autre, étant morts séparés l'un de l'autre, dans l'autre vie. Mais de nouveau, ils étaient réunis. Il lui avait fallu venir de loin. Il lui avait fallu venir depuis tout là-bas, sur les bords d'un lac, ce qui faisait plusieurs jours de marche. Mais à présent, l'amour est appelé par l'amour. Et quand il eut sorti sa tête de son trou, dans l'éloignement d'elle, tout là-bas, et sur le bord des eaux qui ont brillé d'abord pour lui, au lieu des glaciers et des neiges, sitôt qu'il eut sorti sa tête du tombeau, il s'est entendu appeler. Elle l'appelait déjà. Il n'a pas hésité. Il ne pouvait pas se tromper. Elle l'appelait. Il s'est mis debout. Il a d'abord sorti sa tête, puis tout son corps dans la lumière. Mais en même temps qu'il sortait son corps se tournait de lui-même dans la direction qu'il fallait. Il n'aurait pas eu besoin de voir. Il aurait pu être aveugle comme B. Il y avait comme une main qui le tenait, et elle le tenait par le haut du bras, le tirant sans cesse à elle. Il n'aurait pas voulu venir, il serait venu. Il ne savait pas s'il voulait venir ou non. Il n'a pas eu à se le demander. Il a longtemps suivi la route qui va le long de l'eau vers l'est et vers les levées de soleil, et vers où est Jérusalem. Le ciel s'est habillé de blanc, puis de rose. Il marchait dans le matin. Il marchait à midi. Il marchait encore le soir. Le ciel, à présent, s'habillait de vert devant lui. Les hommes étaient partout heureux et beaux dans le grand vignoble, ayant leurs épis de maïs qui séchaient devant les maisons, et en dessous de l'avant-toit de l'écurie, sur une sorte de galerie à claire-voie, leurs noix bien étalées sur les lattes dans le courant d'air. Les femmes, debout sur le pas des portes, lui disaient « Voulez-vous entrer ?» On lui faisait un lit, on ne lui demandait point d'argent, on ne lui demandait même pas son nom. On n'a plus de nom. On lui faisait un lit. Il se couchait dans un bon lit. Il se levait de grand matin. Il recommençait à marcher. Il se levait en même temps que les gens de la maison. Et ainsi, peu à peu, il a quitté le lac. Il est entré dans la grande vallée qui y fait suite. Là, il est remonté le fleuve qui en occupe le milieu, coulant entre deux chaînes de montagnes qui deviennent de plus en plus hautes. Et les deux chaînes se sont rapprochées, toujours plus. Elles ont fini par se rapprocher tellement qu'il n'y a plus eu devant lui qu'une étroite porte entre des rochers. Mais il marche toujours, et c'est midi, et il passe la porte. Tout aussitôt, la vallée s'est élargie. C'était dans le boue, sur un de ses versants. Elle avait été l'attendre dans le bois des ciernes. Elle savait qu'il allait venir. Lui savait qu'elle l'attendait. Maintenant, on ne peut pas ne pas être réunis. Et on ne peut pas ne pas être ensemble quand on est fait pour être ensemble. C'était dans le bois des ciernes où la pente pierreuse avait été entaillée à deux places. L'une pour y faire passer le canal, l'autre pour y faire passer le chemin. C'était juste au-dessous du bis, qui est le nom qu'on donne à ces canaux d'irrigation qu'il y avait dans l'autre vie, et qui allaient chercher très haut dans la montagne de quoi rester plein tout l'été. Et le bis était toujours là, avec son eau toujours la même. Tout était comme autrefois sous les pins. Les pins, eux non plus, n'avaient pas changé, avec leur tronc rouge, nu jusqu'à une grande hauteur, et ne montrant qu'à leur fin bout un petit plumet de branchage. Ils avaient été s'asseoir ensemble au bord du bis. Augustine avait trempé les doigts dedans. « L'eau est aussi froide, avait-elle dit, que dans le temps. » Il avait dit « Ce n'est pas étonnant quand on sait d'où elle vient. » Les beaux glaciers étaient toujours sur les sommets. En arrière du bois, au-delà des croupes herbeuses, des forêts de plus haut, des pâturages et des rochers, ils continuaient de briller pour nous. Ils étaient toujours dans le ciel avec leurs belles couleurs. Tour à tour, rose, jaune, bleu, tout en or ou tout en argent, entre les branches, selon les heures. Et Augustin les montrant, « Tu vois, c'est depuis tout là-haut qu'elle vient. Et on allait tout là-haut pour les réparations à faire. Mais même tout là-haut, on pensait à toi. » Il lui avait pris la main. Il disait, « On voyait les routes comme des fils, les maisons comme des grains de sable. Les toits des villages étaient seulement une nuance dans le vert. Mais moi, je visais quand même la place. Et à force de me dire, « Elle est là », il me semblait que je te voyais. » Il lui tenait la main. L'eau coulait à plein bord, sans le plus petit bruit. Ils mirent une marguerite dessus pour la voir s'en aller. Elle s'en alla très vite, comme un petit bateau s'en va. Ils mirent un brin d'herbe sur l'eau. À ce brin d'herbe, une fourmi qui était en train de se noyer s'est raccrochée. Ils mirent un message sur cette eau. Le message fut emporté. Ils voyaient qu'il ne lui faudrait pas beaucoup de temps pour aller jusqu'au village. Le message était « Bonne pensée de ceux qui sont heureux à ceux qui sont heureux. » L'eau allait bien toujours, mais le temps n'allait plus. On pouvait maintenant, sans crainte, laisser l'eau suivre son chemin. Ce n'était plus un peu de notre vie qu'à chaque nouvelle seconde elle emportait dans son courant. Fausse image aujourd'hui de la vie que c'est eau. Parce que la vie immobile est elle. S'écoulant toujours. Oh non, à présent, rien ne changeait plus, rien n'allait plus jamais changer. Ils ont retrouvé ici toutes les choses qu'ils avaient aimées. Les choses qu'ils avaient aimées n'allaient plus jamais les quitter. Ils se rappelaient une fois où ils avaient gravé dans un tronc au couteau les initiales de leur nom. Ils avaient été chercher l'arbre. Il n'avait pas eu besoin de chercher longtemps. De nouveau, quand il prêtait l'oreille, le bruit de l'écureuil, adroit à grignoter la fève sous l'écaille, venait en imitation à une petite pluie sur les feuilles. De nouveau, dans le grand silence, ils ont entendu le bruit de leur cœur. Et ils voyaient que la différence était ailleurs. Ils disaient « Te rappelles-tu ? » Ils voyaient que la différence était au-dedans d'eux-mêmes, parce qu'ils se disaient l'un à l'autre. « Ah, comme on était tourmentés !» Et lui, « Je te cherchais, sans te trouver. » Elle, « Je t'attendais et tu ne venais pas. » Elle était assez petite, toute ronde, la figure couverte de taches de rousseur. Elle s'appelait donc Augustine. Et lui s'appelait donc Augustin. Alors, quand, dans leur vie d'avant, ils avaient été pour graver leur nom dans l'écorce, ils s'étaient aperçus qu'il n'en avait qu'un pour les deux. Elle disait, « Comment est-ce qu'il faudra faire avec ces deux A pour le linge ?» Il disait, « Tu n'en mettras qu'un. Ce sera de l'ouvrage de moins. » Oh, vilaine figure, vilaine petite figure. Il savait bien qu'Augustine n'était pas belle. Il l'aimait mieux comme elle était que si elle avait été très belle. On se moquait de ses cheveux rouges. Pour lui, il n'y avait rien de plus magnifique au monde que des cheveux rouges. Sur cette peau comme du petit lait, étaient ces taches qui se touchaient toutes, mais le cœur devant elle se sent tout remué de tendresse. L'œil qui cherche à les compter sans y réussir s'en amuse. Il tenait entre ses deux mains cette figure. Petite, si on donnait tout ce son au lapin, mais non, il deviendrait trop gras. Et il souriait, et elle souriait. Mais ensuite, il leur fallait se quitter. C'était sur la terre. C'était au temps de leur rendez-vous sur la terre. Il ôtait son chapeau. Elle se signait parce qu'il passait devant la croix. Elle prenait à droite, lui à gauche. C'était sur la terre. Il se consolait en se disant que leur chemin finirait bien quand même, une fois, par se réunir. Hélas, il ne savait pas quelles difficultés on rencontrait alors à vivre. Son père, à elle, n'avait pas voulu de ce mariage. On ne lui avait plus permis de sortir seul. Et lui venait la nuit rôder autour de la maison. Mais il avait beau venir. Il venait, il se mettait sous un arbre. Il était sous le branchage de l'arbre. Et de là, son cœur appelait. Personne n'y répondait. C'est quand ils étaient dans l'ancienne vie. Il lui avait bien fallu finir par voir que tout y était tromperie. On était comme quelqu'un qui aurait eu une tasse à la main et se serait arrêté à toutes les fontaines. Mais la tasse était sans fond. Tout vous parlait de bonheur, on ne le trouvait nulle part. Dans l'autre vie, dans la fausse vie, et une grande amertume, pour finir, était venue à Augustin. Il s'était dit « Tant pis, qu'elle souffre puisque je souffre. » Il se disait aussi « Si elle tenait vraiment à moi, elle aurait bien trouvé moyen de venir. » Mauvais cœur qu'on a à tout coup, un mauvais cœur vous pousse dans le bon. Et une nuit, c'est la dernière fois, on était déjà en automne, quand il y a ce triste grand brouillard qui est contre les pentes comme une aile cassée. Elle non plus ne dormait pas cette nuit-là, seulement il ne pouvait pas le savoir. Elle l'attendait, il ne le savait pas. Sa fenêtre n'était pas éclairée. Comment aurait-il pu se douter qu'elle ne connaissait pas plus que lui le sommeil, qu'elle l'appelait elle aussi, à travers l'épaisseur des murs, et toute cette couche d'air sourde, se désespérant comme lui. Pourtant, tout à coup, elle s'était levée. La porte avait été ouverte par elle, l'escalier descendu par elle, le gros verrou rouillé tiré. Il y avait une force qui la faisait aller sans qu'elle y fût pour rien. Personne ne l'avait entendue. Et à présent, la nuit, tout le glacé de l'air et cette grande humidité, et elle, nue sous sa chemise, sans souliers, ni bas dans la boue. Mais jamais pourtant si bon air, jamais si belle nuit, jamais légèreté pareille. Et comme elle courait, « Prends-moi, emmène-moi, fais de moi ce que tu voudras. Je n'ai plus ni père ni mère, il n'y a plus personne, il n'y a plus que toi. » Mais il n'était déjà plus là. Il avait dû se décourager d'attendre. Inutilement avait-elle cherché partout dans l'ombre avec ses mains s'il y était. Il n'y était pas. Et le lendemain non plus, il n'avait pas été là. Ni le surlendemain, ni le mois d'après, ni l'année d'ensuite. Ni toutes les grandes longues années qui étaient venues, l'une après l'autre, tandis qu'elle se faisait vieille. Et elle pensait « Fini pour toujours ». Mais non, ce n'était pas fini. Ce qu'elle avait cru une fin n'était qu'un commencement. C'est ensemble, en effet, qu'ils sont rentrés au village. C'est ensemble qu'ils ont passé sous la croix. On les a regardés venir. Elle disait aux gens « C'en est un que je vous amène, l'ami de mon cœur, qui est revenu ». et il va rester avec nous. À présent, on est où on veut. À présent, on est où on aime. Le soir venait. Les gens étaient partout assis sur les bancs devant les maisons. C'étaient les réunions du soir. C'étaient ces belles réunions du soir, ô vieille coutume des villages. Après qu'on a bien travaillé, et la fraîcheur conseille de ne pas s'enfermer tout de suite chez soi. Les vaches ont été gouvernées. Les petits-enfants ont été mis au lit. On vient de manger la soupe. Ô vieille douce habitude des villages que ceux d'ici avaient gardée. Et, comme autrefois, les uns étaient assis, les autres étaient debout. Ceux qui aimaient à fumer fumaient. Ceux qui aimaient à chiquer chiquaient. Les oiseaux, en changeant de place, faisaient un bruit sous les avant-toits. Il y avait, bas dans l'air, toutes ces chauves-souris qui semblaient voler sur des béquilles. Il y avait Maurice, le chercheur d'or, qui continuait son histoire. Alors, Augustin et Augustine se sont arrêtés encore pour l'écouter, parce qu'ils disaient « On était deux frères pourtant, deux vrais frères par l'amitié. Seulement, l'or nous séparait. Vous vous rappelez ?» Il était venu mes pieds pendant que je travaillais dans la paroi. Je n'avais pas eu l'air de me douter de rien. Le soir, je redescends comme d'ordinaire au fenil. Le panier était dans un coin. Et, soulevant la miche, je trouve un papier où il y avait quelque chose d'écrit. Moi, ce n'est pas le panier qui m'étonne, c'est le papier. On n'écrit pas chez nous, sauf pour tenir ses comptes. Jean me disait sur ce papier qu'il avait dû descendre au village et qu'il ne remonterait pas avant le lendemain. Moi, longtemps après que je m'étais couché, je n'étais pas arrivé à m'endormir. Réfléchissant à ce papier et le rapprochant dans ma tête de ce qui s'était passé pendant la journée. Il n'y avait pas de lune cette nuit-là. Mais extraordinairement d'étoiles, comme souvent à la fin de l'été, parce qu'il semble que le bon Dieu ne compte plus alors avec elles, voulant faire bonne mesure avant de nous les supprimer tout à fait. Cette lumière entrait par toutes les fentes, comme quand on balaie une poussière qui entrerait. J'avais dû m'endormir pour finir. À un moment donné, il me semble qu'on pousse la porte. Je crus d'abord avoir rêvé, n'ayant ouvert l'œil qu'à demi. Mais la porte tourne un petit peu sur elle-même, puis un tout petit peu plus. Je continuai à ne pas bouger. On est entré alors, tout doucement. On a été à mes habits, on les a pris, on est sorti, on est rentré, on a été à mon panier, on a été à mes souliers, on les a retournés. On a été voir dans les coins. On a été passer la main sur une planchette qui était clouée dans le mur. À la suite de quoi, on a regardé de mon côté. Mais décidément, on n'osait pas. Et on a hésité encore. Puis on a haussé les épaules. Puis on est sorti. On n'a pas fait plus de bruit qu'en entrant, parce qu'on était pieds nus. J'ai vu se rouvrir la porte. La lumière des étoiles a fait un petit tas par terre. Mais dans le même moment, je m'étais mis debout. J'ai à mon tour amené la porte à moi. J'ai poussé ma voix dans la nuit. « Jean !» Il ne s'était pas arrêté. Il faisait comme un qui n'entendrait pas. J'ai poussé ma voix plus encore. « Écoute, Jean, es-tu bien sûr que je dormais ?» Cette fois, il avait fait demi-tour. C'est le mauvais amour-propre qu'on avait dans cette autre vie. Et voilà qu'il me dit « Si tu ne dormais pas, c'est donc que tu faisais semblant ?» Je n'ai plus pu me tenir. « Jean, est-ce que tu n'as pas honte ?» Je m'étais rapproché encore, si bien qu'on n'était plus qu'à quelques pas l'un de l'autre. On était deux frères sous la lune. Il tendait la tête en avant comme le taureau qui va corner. Il m'a dit « Répète-le. » Je le répéterai parce que c'est la vérité. J'ai reçu le coup en pleine figure. J'ai failli tomber sur le dos. Je lui saute dessus. C'est lui qui tombe. Je lui saute dessus, je l'empoigne des deux mains par le cou. On était deux frères sous la lune. J'ai vu qu'il ouvrait la bouche parce que l'air n'entrait plus. Il faisait un mouvement comme pour mâcher. Vous savez, comme quand la chèvre est attachée à son piquet et qu'elle tend le cou vers l'herbe. J'ai eu peur, juste au bon tout dernier moment. Et heureusement pour moi, m'étant levé, et puis qui me sauvait à présent droit devant moi de toutes mes forces. Mais depuis lors, jamais plus mon frère et moi on ne s'est parlé. Et il est mort. Et où est-il? Et comment, en ce temps-là, est-ce qu'on était fait? Dites. Maintenant, la nuit était venue tout à fait. Pierre Chemin avait remis sa pipe dans sa poche. Adèle au genou avait été coucher son enfant. Les chauves-souris avaient été se coucher aussi, qui sont des bêtes vides fatiguées. Et ceux qui étaient encore là se souhaitèrent le bonsoir. On entendit les portes se fermer l'une après l'autre. On n'avait plus besoin de tourner la clé dans la serrure. Est-ce qu'on se souvient? Quand on entrait dans les villages, il y avait toujours, autrefois, deux ou trois fenêtres éclairées à des maisons qu'on ne distinguait pas. Elles faisaient penser à des étoiles tombées. On se disait « c'est pour un malade ». On regardait ces lampes. On se disait « c'est quelqu'un qui se meurt ». On se disait « c'est un accident ». On se disait « c'est la vache qui fait le veau. » Et quelquefois, les nuits d'orage, voilà qu'elles s'allumaient toutes à l'imitation des éclairs, et tout le monde s'habillait parce qu'il n'y avait plus de sécurité pour personne. Et la vie de chacun de nous pouvait lui être reprise à chaque heure, comme c'est bien. Le veilleur de nuit faisait sa tournée avec sa lanterne. C'était une lumière de plus. Et celle-ci se promenait. L'homme, chargé de distribuer l'eau, cheminait le long des rigoles, déplaçant les planchettes qui servent d'écluses. Encore une lumière qui allait et venait. Par les nuits les plus tranquilles, il fallait qu'on fût sur ses gardes. Par les plus belles nuits d'étoiles, sous les étoiles, sous point d'étoiles, en tout temps, en toute saison, parce qu'on ne savait jamais. À cause de l'inquiétude continuelle où on vivait, d'où aussi ces retournements sans fin sur l'oreiller, ces malaises, ces mauvais rêves, et toujours la peur quant à l'avenir, le regret quant au passé. 8. Pitôme était couvreur de son métier dans l'ancienne vie, mais il changeait de métier quand l'hiver venait, autrefois, dans l'autre vie. C'est à cause de cette trop grande épaisseur blanche, pareille aux plumiers qu'on met sur les lits, qu'il y avait sur les toits. Mais Pitôme laissait neiger, étant un sage. Et, ayant ainsi deux métiers, passait simplement au second, qui consistait à distiller les racines de gentiane dont on fait une liqueur, laquelle non seulement est agréable de goût, mais guérissait toutes les maladies. Il mettait de côté sa hache et ses tavillons de sapin sans nœud, qui sont les tuiles de là-haut, et prenant sa barbe dans sa main, aller voir où en était sa cuvée, c'est-à-dire les racines qu'on met fermenter dans l'eau tiède. Puis, allumait son alambic. Et facilement, comme ça, il pouvait attendre que l'hiver fût passé et que le printemps revînt. Il fait tomber par gros paquets ce qui reste de neige sur la pente des toits qui regarde le nord, et lui repréparerait pour l'hiver suivant une nouvelle provision de racines. Pitôme était un petit vieux tout rose, avec des yeux bleus et une fine barbe blanche. Son idée était que tout doit se purifier, étant sur la terre à l'état impur. C'était dans le temps de la terre une idée qu'il avait ainsi, et elle lui était venue quand il était assis devant sa machine, voyant de l'énorme quantité de liquide trouble mise dedans, seulement résulter goutte à goutte, un litre ou deux. Purifié, il voyait bien que l'écume ne passait pas, et l'amertume ne passait pas, ni cette peau plissée qui se forme à la surface du paquet. Rien ne passait, que l'âme, et que l'âme de l'âme. Alors, le procédé consistait à séparer d'abord par la fermentation ce qui est bon de ce qui est mauvais, puis à ne garder que ce qui est bon. Ne laisser venir que le bon, et même le meilleur, par des choix successifs, comme faisait Pitôme. Un petit vieux, tranquille, vaquant lui-même à son ménage, recousant ses habits, tricotant ses bas. Il allait chercher ses racines dans le dessus des montagnes, où sont des pâturages déroulés presque à plat, et où les hautes tiges d'un vert jaune à grosses feuilles se voient de loin parmi l'herbe, partout broutée à ras de terre. Seulement, ce qui l'intéressait, lui, était ce qui est caché. Il savait distinguer d'avance les racines qui étaient bonnes de celles qui ne valaient rien, négligeant celles-ci, creusant autour des autres. Et parce qu'il payait une somme au propriétaire, il avait le droit de creuser. Il redescendait la nuit avec son sac plein. Il fallait soigneusement racler ses racines. Il fallait ensuite les débiter en petits morceaux, les mettre macérés dans de l'eau tiède. Et durant bien des jours et encore des jours, on voyait Pitôme s'appliquer, ayant sur les genoux un tablier de femme, assis près des petits carreaux, où un silencieux flocon venait se poser de temps en temps. Or, la nouvelle vie avait rendu Pitôme à son ancien métier. Mais voilà que son métier n'était plus tout à fait le même. On avait raison dans le temps, disait-il, mais on n'avait qu'à moitié raison. On voyait seulement l'image, on ne voyait pas le sens qu'elle avait. Il reprenait. On purifiait les choses, mais on ne se purifiait pas soi-même. Et il continuait. Mais à présent, notre tour est venu. Nous aussi, on a été mis en morceaux. Nous aussi, on a fermenté. Nous aussi, notre matière a dû se défaire pour se refaire. Il n'y a plus que l'essence qui reste. D'où ce qui gâtait le goût a été ôté. Il se mettait à sourire avec sa bonne figure rose. Sa bouche était dans sa barbe, comme dans de la laine d'agneau. Il avait un petit œil fin. Il avait un petit œil fin, d'une couleur comme celle du ciel après qu'il a beaucoup neigé. Il avait toutes ses dents à 70 ans d'âge. Et comme beaucoup de gens étaient autour de lui à l'écouter, il disait encore « À présent, je ne distille plus. Le grand distillateur a fait le nécessaire. » C'était d'ailleurs une manière de parler, son alambic fonctionnant toujours. voulait dire que la besogne se faisait toute seule. Tout ce qui était mis dans l'alambic passait. Neuf. Et sur tout le pays, le soleil était répandu. C'est un beau et bon pays. On y trouve tout ce qui fait besoin pour vivre. Dans les bas, il y a la vigne. Plus haut, il y a les arbres fruitiers. Des forêts de pins viennent ensuite. Et au-dessus de ces forêts, c'est-à-dire à l'étage où se tient le village, il y a l'herbe, il y a le seigle, il y a le froment, il y a le blé noir. Toute cette grande vallée vous était offerte aux yeux du monde. Toute cette grande vallée vous était offerte aux yeux du village, et c'était la terre nouvelle, mais c'est l'ancienne en même temps. Toujours la même belle rivière blanche, comme du lait, coulait dans le fond. Il y avait cette belle rivière blanche. Suspendue au-dessous de vous, on voyait le... On voyait le bon oiseau tracer de plus en plus étroitement ses cercles. Puis, il se laissait tomber comme une pierre. Le bon oiseau planait. Et était un point dans ce grand vide contenu entre des montagnes de 3000 mètres, comme dans une espèce d'auge, comme dans un immense bassin de fontaine, où, à la place d'eau, il y aurait eu de l'air. Et telle était bien, en effet, la forme de cette vallée, belle à voir sous le grand soleil, bleue dans l'éloignement, verte ou grise plus près de vous. Verte d'herbe, grise de rochers. Et puis, plus haut, sur le versant d'en face, rose de neige. Augustin et Augustine se tenaient assis l'un à côté de l'autre. La main d'Augustine était sur les genoux d'Augustin. La main d'Augustin était sur les genoux d'Augustine. Ils regardaient le bon oiseau pendre à son fil. Un vol de pigeons partait aussi pour faire la traversée de la vallée. On ne pouvait pas les suivre de l'œil jusqu'à l'autre bord. Ils fondaient, peu à peu, dans l'air, comme des morceaux de sucre dans l'eau. On entendait les cris de toute espèce d'oiseaux. Partout, dans les buissons, nichaient le pinson et le merle. La perdrix courait sous les haies. Et Bonvin, le chasseur qui passait par là. Autrefois, le plaisir était de détruire. À présent, le plaisir est de voir que rien ne peut plus être détruit. Augustin lui disait : Qu'avez-vous fait de votre fusil ?
Je ne l'ai pas retrouvé.
Pourtant, reprenait-il, je me souviens qu'il était pendu à un clou au-dessus de mon lit. Eh bien, quand on est revenu à la vie, comme il disait, le clou était bien toujours dans le mur, mais le fusil n'y était plus. Une femelle lièvre à ce moment se montra, qui jouait avec son petit. Et alors voilà une chose, continuait Bonvin, que dans le temps on n'aurait sûrement pas vue, parce que ou bien elles se cachaient, ou bien on leur tirait dessus. La lièvre, comme il disait, traînait alors dans l'herbe son train de derrière. On se jetait sur elle comme un chien qui n'a pas mangé depuis 3 jours. Elle avait beau se désoler, la pauvre, on l'empoignait par les pattes, on voulait la laisser pendre dans sa peau qui ne tenait plus. Et quand elle redressait la tête, cra! Il faisait le geste avec le tranchant de la main. Un troupeau de brebis venait accompagné de leurs agneaux. Un petit garçon marchait derrière. Les agneaux avaient de grosses jambes raides qui semblaient avoir été taillées dans du sapin avec un couteau qui coupe mal. Mais une jolie laine frisée était sur leur dos et si douce. Et ce ne fut pas tout encore ce jour-là, parce que tout à coup, à l'endroit où la pente casse, faisant ainsi avancement et comme rebord sur rien du tout, de derrière ce rebord, la tête d'un mulet s'est montrée. D'abord, rien que la tête, et un instant, rien que la tête, puis on vit sortir les jambes de devant. Ensuite, il y eut le dos, ensuite, il y eut la croupe. Elle se balança un moment sur le vide, puis fut tirée en haut, comme si on l'avait halée avec une corde. Et toute la bête ainsi devint visible. Mais elle ne fut pas seule à l'être. En effet, derrière elle, parut un chapeau. Sous le chapeau, une barbiche. Sous la barbiche, un habit brun et des guêtres de drap à boutons de cuivre. Augustine se mit à battre des mains. « Le marchand de foulards, Augustin, Mathias, le marchand de foulards, lui aussi qui est revenu. » Alors, elle devint rouge, elle devint toute rouge. L'homme au foulard, qui vend aussi du fil, des rubans, des petits miroirs, des épingles, l'homme aux choses pour se faire belle. Et voilà qu'on se souvient. Mais déjà les filles arrivaient. Les filles ont vite fait de tout voir et de tout savoir. Et c'est comme au temps d'autrefois. Les filles avaient eu vite fait de tout voir du village. Elles venaient à la rencontre de Mathias. La grosse Marie ne s'était même pas donné le temps d'ôter son tablier de cuisine et courait tant qu'elle pouvait, avec ses bonnes joues bien rondes et une poitrine pas moins ronde. La petite Lucie, qui était noire, maigre, pâle et autrefois toujours triste, mais qui ne l'est plus, courait aussi. Venait ensuite Angèle, Marguerite, Rose, une qui s'appelait Cécile, une qui s'appelait Rosine, et à présent elle se poussait autour des paniers suspendus au bas, parce qu'on est curieuse, parce qu'il ne vous suffit pas de voir, et qu'on veut venir, et qu'on veut toucher. Alors, Mathias, attention, mesdemoiselles. Mais elle, combien ? Une qui tenait un mouchoir rouge à dessins jaunes, une pièce de dentelle, une chose, l'autre, autre chose. Combien, dit Mathias? Ça dépend. Il reprit. Ça dépend de ce que vous valez vous-même. Il faudrait d'abord que je vous regarde. D'ailleurs, il me semble qu'on se connaît. Bien sûr qu'on se connaît. Nous sommes des vieilles pratiques. Vous ne vous souvenez pas dans le temps. Encore qu'on n'était pas riches. Mais Mathias, dans le temps on vendait pour de l'argent, maintenant ce n'est plus pour de l'argent. À présent il ne vend plus pour de l'argent. Il ne vendait plus pour de l'argent, il disait « Ce mouchoir, chantez-moi une chanson contre. » C'est ce qu'il a dit à la grosse Marie. Il a dit « Chante-moi une chanson de l'autre vie, Marie, et tu auras ton mouchoir. » Marie pencha la tête de côté parce qu'elle était un peu honteuse. Puis l'envie d'avoir le mouchoir fut quand même la plus forte. Laquelle ? Celle que tu voudras. Faut-il chanter celle du cœur consolé ? Et les autres filles ? Oh oui, celle du cœur consolé, c'est la plus belle. Et la grosse Marie chanta. La grosse Marie eut son mouchoir. Lucie, elle, eut un miroir. Elle n'avait pas eu besoin de chanter pour l'avoir. Mathias lui avait dit « Il faut seulement que tu sois contente. » Beaucoup de petits paquets était fait sans qu'il y eût besoin d'ouvrir son porte-monnaie. On ouvrait seulement son cœur. Et c'est à ce moment qu'Augustin et Augustine arrivèrent. Tout de suite, Augustine s'était mise à fouiller dans les paniers. Elle y trouva une petite boîte. Ce qu'il y avait dans la boîte, c'était un collier de corail à fermoir d'argent. Et vite, elle referma la boîte, parce qu'il devait être bien trop cher. Mais Augustin avait tout vu. Il se tourna vers Mathias. Mathias se mit à rire. « Vous voulez savoir mon prix ? Ah, c'est vrai, vous n'étiez pas là. » « Eh bien, dit-il, pour vous, ce sera de vous aimer encore plus que vous ne faites. » Et comme Augustin disait « Je ne sais pas si je pourrais, vous essayerez », il laissa pendre le collier au bout des doigts. « Promettez-vous ? Une fois, deux fois, trois fois. » Après quoi, à juger. Quelle douceur c'était, et quelle tranquillité quand même. L'eau de la rigole avait une petite voix, comme quand l'écolier récite sa leçon. L'ombre du sorbier, sur le chemin, était percée de trous comme une passoire. On avait mis à Augustine le collier, la grosse Marie avait son mouchoir autour de la tête, Lucie son miroir à la main, Angèle ses rubans, pliés dans du papier, et l'air bleu, plein de papillons, tremblotait autour des épines blanches. L'église sonna 11 coups. C'était l'heure où les hommes rentrent des champs. On les aperçut sur les pentes, dans leurs chemises bleues ou roses, qui s'en venaient de tous côtés. Comme autrefois, quand 11 heures sonnaient, mais au lieu qu'en ce temps-là, il venait lentement, pesamment, difficilement, il venait comme malgré eux, à cause de leur grande fatigue. Maintenant, le plaisir les faisait s'avancer sans peine. Maintenant, le plaisir les portait en avant. On a cette légèreté du corps, on a cette légèreté du cœur. Ils venaient, ils étaient légers. Et ils vinrent encore, puis se mirent à rire, parce qu'à présent ils riaient d'avance. Oh, cette légèreté du dedans, qui permet de se réjouir. Ils criaient, eh, Mathias, n'as-tu rien pour nous? Ou si ton commerce est peut-être seulement à l'intention des femmes, malin que tu es. Mais dis-toi bien que c'est nous qu'on paie. À ce moment-là, ils virent qu'ils n'auraient plus rien à payer. Mathias, ayant pris son mulet par le mors, avait été à leur rencontre et leur montra sa bourse vide. Il levait les bras. « Tant mieux pour nous, mais vous, vous allez faire faillite. » Et des rires de nouveau, partout. Pendant que sur un toit, il y avait Pitôme, parce qu'il avait repris ce jour-là son métier de couvreur. Et debout, sur son toit, il caressait sa barbe blanche. « Et là-bas, vous autres, moi non plus, je ne demande pas d'argent. Mais lui, vous le payez du moins en sourire. Est-ce qu'il n'y en aurait pas un pour moi ?» C'est aux filles qu'il s'adressait, qui étaient venues avec Mathias. Et du haut de son toit, Pitôme leur parlait. « Je vous refais vos toits pour qu'il ne pleuve pas chez vous. » Est-ce que vous seriez des ingrates ? Elles se tournèrent vers lui, et les choses ont dû s'arranger, car Pitôme, à présent, disait « Ça va bien. » 10. Mais il y a eu Thérèse Main, une figure jaune comme du beurre d'herbe, une toute petite tête ronde, un cri, toujours le même, et 2 ou 3 gestes, toujours les mêmes, dedans. Elle seule semblait ne s'être aperçue de rien. C'était toujours la même. Thérèse Main, la même guenille de robe, les mêmes gros souliers gris sans forme, faisant penser à deux cailloux. Le même chapeau de paille dont on aurait dit que les bords avaient été rongés par les souris. Et c'est bien le même métier aussi. On était gardeuse de chèvres dans l'autre vie. On est gardeuse de chèvres dans celle-ci. Le langage qu'on parle aux chèvres n'est pas celui dont se servent les hommes. Le langage qu'on leur parle est une pierre qu'on leur jette quand elles s'écartent trop de vous. Un certain cri aussi qu'on pousse, en même temps qu'on leur présente sa main vide, comme s'il y avait du sel dedans. Elle s'en allait tout près des rochers, là où l'herbe n'est plus d'assez bonne qualité, ni assez fournie pour les vaches. Elle s'asseyait par terre, elle tricotait son bas. Quand elle avait faim, elle ouvrait un petit sac de cuir qu'elle portait pendu autour du cou à une courroie. Quand la soif lui venait, elle allait boire au ruisseau. Bien toujours la même Thérèse, bien toujours le même métier, et bien toujours aussi ces bêtes un peu folles. Elles vont et se déplacent comme des morceaux de neige. On pense, il y a de petites avalanches. C'est comme quand des paquets de neige dégringolent. On se dit aussi, pourquoi est-ce que ce tronc de sapin s'est mis à bouger? C'est pointu, anguleux. Ça ressemble à une toile de tente mal tendue sur ses piquets. C'est brun comme de l'écorce, gris comme la roche, brun noir comme la terre des forêts de sapins. C'est blanc, ça n'est pas blanc. Ça reste un long moment sans bouger. Tout à coup, et té, té, un petit bruit aussi d'oiseau qui pique un ver. Le bruit se tait. Té, té, un autre petit bruit. C'est l'oiseau qui s'envole. Té. XI. C'est vers ce temps qu'ils avaient commencé à ne plus bien connaître leur bonheur. Ils ne savaient pas ce qui arrivait. Il leur a semblé que leur bonheur s'en allait d'eux, parce qu'il était toujours le même. Ils avaient pu, un temps encore, comparer leur nouvelle vie à l'ancienne. Et puis, voilà, leur souvenir s'était usé. Ils étaient venus avec leurs histoires. Ils se les étaient racontées, ils en avaient pris l'habitude. Elles étaient peu à peu tombées d'eux, comme le fruit tombe de l'arbre, et puis l'arbre n'a plus de fruits. « Qu'est-ce que tu as ?» disait Augustin. « Je n'ai rien. » Il faisait le chemin déjà tant de fois par eux. « Rien du tout, » disait Augustine. De nouveau, l'écureuil est dans son arbre. Il montait, il redescendait. « Es-tu bien ?»«
Je suis bien. »
L'écureuil, à présent, s'était engagé sur une branche allant à plat dans la direction de l'arbre voisin. La branche se balança un instant sous le poids de l'écureuil. Elle se balance à vide. « Tu es toujours contente ?»«
Je suis toujours contente. »
Il ne savait plus. Il n'y avait plus moyen de savoir. Il n'y avait plus de comparaison possible. Il n'y avait plus de mesure à rien. Il cueillait une fleur jaune d'arnica. Il la mettait sur l'eau du bis. La fleur tournait sur elle-même, s'en allait. Augustine, petite Augustine, la fleur s'en va. Augustine, la fleur s'en va. Mais sais-tu où elle va?
Elle traversera le bois, elle arrivera dans le pré,
elle passera au pied du talus, où il y a des saules qui sont comme des hommes à grosse tête, les bras en l'air. Elle passera sous la route, elle descendra, elle descendra. Il lui demanda. Et après? Elle répondit. Après, c'est des pays que je ne connais pas.
Moi, je les connais.
Mais il vit tout à coup qu'il ne les connaissait plus. Là où il croyait les trouver,
il y avait dans sa tête une place vide. Rien n'allait plus jamais changer. Le cœur ne ferait plus de voyage. Le cœur trouve tout où il est. On fait ce qu'on a déjà fait. Il poserait de nouveau une fleur sur le courant. Il regarderait l'écureuil grimper à son tronc, en redescendre. Par les petites lucarnes percées dans le couvert des branches, une même couleur de ciel continuerait à se montrer. Pitôme est toujours assis devant son alambic sur un tabouret de cuisine. Il caresse sa fine barbe blanche. Il disait, il n'y a plus d'impureté. Autrefois, disait-il, quand je m'étais trempé mes racines, c'était effrayant de voir l'épaisseur d'écume qui se formait sur le baquet. Il fallait la lever 3-4 fois de suite. À présent, les racines fermentent bien toujours, mais l'eau reste aussi claire que si l'on venait d'aller la chercher à la fontaine. De l'alambic tombait goutte à goutte dans un pot de terre la liqueur chaude encore, faisant un tout petit bruit comme celui d'une pendule qui bat. Quand le pot était plein, Pitôme allait le vider dans une bouteille. Il y avait aussi des dames Jeanne qui sont des grosses bonbonnes, prises jusqu'au plus haut que le ventre dans une espèce de tricot d'osier. Autrefois, il y attachait des étiquettes avec l'année écrite dessus. Quand il vous donnait à goûter de sa liqueur, il était comme un vigneron qui parle de son vin. Il vous disait « Ça, c'est de la 1928. Ça, c'est de la 1931. » Maintenant, toutes ces cuvées se ressemblaient. Il y avait trop de parenté l'une à l'autre. « C'est toujours du tout bon, » disait Pitôme. « Toujours de l'extra. » Toujours le fin du fin, le sommet du meilleur. On buvait dans un gros verre épais dont on ne remplissait que le fond. Et en effet, il n'était pas possible d'imaginer une perfection de goût plus grande. Alors, on se mettait à hocher la tête comme quand on approuve. Mais peut-être vous manquait-il le plaisir de la surprise. Peut-être cette perfection, même, était-elle trop attendue pour qu'on pût en jouir comme on en aurait voulu. Car dans le temps, disait Pitôme, ce n'était pas la même chose, et le diable, sûrement, était encore dans ses bouteilles, parce qu'il devait y rester quand même de l'impureté. Dans l'autre vie, on ne savait jamais ce qui allait se passer chez ceux à qui j'offrais à boire. Il fallait d'abord que l'esprit agisse sur eux. Où était-il l'homme véritable, pouvez-vous me dire, dans l'autre vie? Est-ce celui qui se montrait d'abord à jeun, ou bien celui qui ne se montrait qu'après qu'il avait bu? Celui de tous les jours ou celui d'un moment? On n'était plus sûr de rien. Les meilleurs amis, l'occasion, je dis, un petit verre. Les meilleurs amis, voyez-vous, on croyait qu'il allait commencer une histoire, comme il en avait eu sans doute l'intention. Tout à coup, il s'arrêtait, comme quand on coupe un fil et ce qu'il y a au bout du fil tombe. Les chemins dans son atelier continuaient à peindre son tableau où il ne mettait que des couleurs claires. Alors, il s'étonnait de voir qu'elles éclairaient toujours moins. Il continuait à se tenir devant son tableau où toutes les choses étaient belles. C'était sur son tableau comme si elles ne l'étaient plus. Tout était trop beau à présent. Ce n'était plus comme dans l'ancienne vie, Autrefois, dans cette ancienne vie, on avait un cœur qui était comme le ciel, c'est-à-dire le plus souvent gris. Tandis qu'à présent, chaque jour, le soleil entrait par les vitres, faisant fidèlement briller autour du chemin les objets taillés dans le beau mélèze rose ou dans du cœur de sapin qui sent bon. Autrefois, on n'était presque jamais content de soi. Un jour tous les 10 jours, tout au plus, une fois toutes les 2 semaines. Les dimanches du cœur étaient rares en ce temps-là. C'est peut-être pourquoi ils étaient si précieux. Chemin tapotait contre l'établi sa pipe, restée à moitié pleine. La plupart du temps, on n'avait goût à rien. On n'avait même pas goût à son tabac, parce qu'on n'avait pas goût à soi-même. L'oiseau, inutilement, poussait pour vous son petit cri qu'on aime. L'arbre tourné vers vous agitait inutilement sa branche, comme une main. Chemin allait s'asseoir dans un coin. Il posait ses coudes sur ses genoux. Il laissait aller sa tête en avant. Ainsi était Chemin dans son ancienne vie, à cause d'un cœur délicat, un cœur trop délicat pour la dure vie que c'était, un cœur qui se cherchait toujours, sans jamais se trouver, tandis qu'à présent. Mais alors, qu'est-ce qu'il se passe? Pendant que Chemin tenait son pinceau et allait avec son pinceau, qu'est-ce qu'il se passe au fond de lui? Et qu'est-ce que c'était que cette espèce de regret qui s'élevait, comme quand la bête, en bougeant, fait monter la vase du fond de la mare? Je regarde mon petit. Je lui dis, « Tu es tant joli. Souris-moi encore une fois. » Il ne pleure plus, mon petit. Je lui ai mis son beau bonnet tricoté et une chemise. Par-dessus sa chemise, il a une robe de coton et un tablier, c'est tout. On n'a plus besoin de les habiller chaudement comme dans le temps. Des fois, je le mets tout nu. Je l'assieds tout nu sur le mur parce qu'il aime. Il bouge ses petites mains et ses petits pieds tant qu'il veut. Elle le levait dans le jour, elle disait « Regardez, il est rouge autour de la bouche, comme s'il avait mangé des framboises. Mais c'est une couleur qui ne part pas à l'eau. » Elle prenait son mouchoir, elle frottait. « Vous voyez ?» Et comme les autres, elle disait « C'est qu'il ne nous manque plus rien. » Il y a une seule chose qui nous manque, c'est que ça ne peut pas changer. Venait Catherine avec sa petite fille, venait la grosse Marie et Lucie, la triste, qui ne peut plus l'être. On entendait un bruit d'eau, c'était Fémie qui arrosait son jardin. On voyait par la fenêtre un pitôme, toujours le même. Cher Mignon allait sur ses 2 jambes, comme s'il avait toujours eu ses 2 jambes. B arrivait, on lui disait « Tu vois, B ?» Et quand on lui disait encore « C'est que tu n'y voyais pas autrefois. » Il vous considérait avec étonnement, comme si cet immense ciel et toutes les choses qui étaient dessous avaient toujours été à lui. Une montagne brille pointue et une autre est ronde. Une est verte, l'autre est grise. Une montagne, et puis une encore, et puis encore une. Une ronde, une pointue, une qui est verte, une grise.